10h24 de retour dans Trudeau-Landry. On parlait avant la pause des impacts sur les jeunes. Également de l'association des pédiatres qui ont fait une sortie vraiment sans équivoque hier. Et on va poursuivre la discussion avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Il est également auteur, conférencier. Il est excellent lorsqu'il vient le temps de parler du centre, du développement des jeunes. Toujours intéressant de l'entendre. Monsieur Monzé, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Monzé, tout de suite, je vous pose la question parce qu'on a eu le débat avant la pause. Lorsque l'association des pédiatres hier, ils vont de plusieurs constats, je pense qu'on va partager puis qu'on abordera ensemble, mais ils vont d'une déclaration disant que on parle d'une génération sacrifiée. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu fort comme terme? Et sinon, pourquoi?
Mais en fait, ça va peut-être dépendre de la durée dans laquelle on va maintenir nos adolescents dans le contexte actuel dans lequel on les maintient. Et surtout, et je dis bien surtout, la manière dont on va les accompagner présentement pour pouvoir gérer en fait tous les défis qu'ils peuvent avoir avec les conséquences que la COVID est en train d'imposer à cette jeune génération.
Monsieur Monzé, on fait souvent des entrevues avec vous quand il y a des articles, par exemple, qui sont publiés sur l'utilisation du Ritalin, les prescriptions, les médicaments. Souvent, le Québec est surreprésenté là-dedans. Est-ce que vous craignez que, justement, qu'il y a plusieurs élèves, plusieurs jeunes au Québec qui, bon, pour qui peut-être le TDAH, les troubles de l'attention, l'hyperactivité va être augmentée, va être, disons, amplifiée à cause de ce qu'ils vont vivre dans les prochaines semaines?
Oui, parce qu'en fait, il y a toute une série de... Ben, premièrement, les signes quand un jeune est très anxieux ou qu'éventuellement il a un début ou un acquis au niveau d'un stress post-traumatique parce qu'il aura vécu trop d'angoisse pendant trop de temps ou il aurait eu peur de mourir pendant trop de temps à cause de tout ce qu'il entend à la radio ou à la télé. Les symptômes qu'on va observer chez ce jeune-là, souvent, ben ça s'apparente aux symptômes du TDA et du TDAH parce que c'est facile de partir de la lune quand on est angoissé, on se parle. C'est facile de s'agiter quand on n'est pas bien dans notre corps, dans notre espace de vie et ainsi de suite. Si on va dans un environnement qu'on perçoit comme dangereux, par exemple l'école, mais il y a de fortes chances qu'on réagisse comme si on était dans un milieu toxique, dangereux, menaçant. Donc on risque de s'agiter dans des moments pareils. Et on voit d'ailleurs qu'il y a énormément de demandes dans les cliniques d'évaluation neuropsychologique pour justement avoir des diagnostics et éventuellement d'avoir des prescriptions de Ritalin. Donc ça c'est ce qui va faire un bain faire augmenter la prévalence de risque qu'on ait du TDA-TDH ou de supposer TDA-TDH. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que présentement, mais nos jeunes, au mois de mai, ils vont devoir faire des examens du ministère. Et on s'entend que si on s'attend d'eux à avoir la même performance que ce qu'on pouvait attendre en 2018, ben, on risque peut-être d'avoir là aussi des jeunes qui vont être tellement inquiets ou des parents ou des professeurs tellement inquiets pendant des mois pour préparer ces examens du ministère, mais que finalement, le jeune risque soit de décrocher intellectuellement, soit de décrocher physiquement ou de s'agiter et d'être vraiment pas bien. Et là, on va avoir peur qu'il y ait une maladie mentale qui va être apparue.
Justement, quand on parle des conséquences que la situation actuelle peut avoir sur les jeunes, est-ce que on doit s'inquiéter davantage que la situation vienne exacerber des conditions préexistantes ou qui étaient latentes chez certains jeunes, ou que ce soit des jeunes qui n'avaient aucune prédisposition à avoir des problèmes d'anxiété ou de dépression, de quoi que ce soit, et que la situation vienne créer ces conditions-là chez eux?
Mais je pense que on fait tous de l'anxiété et on a tous du stress. Donc, à la base, on a ça qui est entre guillemets latent. Mais la plupart des personnes vont être capables de pouvoir relativement bien le gérer. Cela dit, il y a un an, on considérait qu'environ 20% de nos jeunes avaient des comportements de type troubles d'anxiété généralisée ou un syndrome de stress post-traumatique. Et on se rend compte qu'après quelques mois de COVID, ben, on est monté à 37%. Donc, c'est certain que la situation va contribuer à fragiliser. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a deux périodes extrêmement importantes dans le développement du cerveau chez la personne. Il y a la petite enfance et il y a l'adolescence. Et durant la petite enfance et durant l'adolescence, notre cerveau va créer 300 millions de synapses à tous les jours. Les synapses, c'est les contacts entre les neurones et c'est ce qui fait que le cerveau va vraiment bien maturer. Et alors, à partir de là, si le jeune, que ce soit un jeune de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans est dans une insécurité continue, eh bien le cerveau n'arrive plus à créer des nouvelles synapses. Donc on va faire des blocages, si vous voulez, de maturation, et c'est là qu'il faudra faire attention à diagnostiquer les bons éléments, et quand il y a quelque chose d'extérieur beaucoup trop grave, mais c'est certain qu'on risque peut-être de se tromper de direction d'intervention, et je pense qu'il faut rassurer nos jeunes, il faut les accompagner, il faut les aider à développer leurs ressources, et je suis pas certain que ce que la santé publique a conseillé cette semaine au premier ministre soit la meilleure des stratégies pour les adolescents.
OK. Restons d'ailleurs sur les adolescents. Vous dites que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure stratégie. Il y a beaucoup de parents d'adolescents qui nous écoutent, M. Monzé. Comment les parents peuvent aider leurs ados, par exemple, à combler la perte de vie sociale? Parce que la vie sociale à l'adolescence, on l'a tous vécu, c'est extrêmement important. Quel est l'impact de ça d'abord, de la perte de vie sociale, de la pause de vie sociale, et comment les parents peuvent aider leurs ados là-dessus?
Mais ce que j'aurais envie de dire, il y a quand même déjà quelque chose de nouveau par rapport au printemps dernier, où il y a beaucoup d'ados qui du jour au lendemain n'ont plus pu parler à leur amoureuse, enfin n'ont plus pu être en contact avec leur amoureux ou leur amoureuse, ce qui a créé énormément de ruptures et donc des chagrins d'amour pendant plusieurs semaines pour certains jeunes. Ici, la santé publique tolère beaucoup plus que les jeunes puissent rester en fréquentation avec la personne de leur cœur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau par rapport au printemps. Mais si on accepte ce principe-là, est-ce qu'on pourrait imaginer, même si la santé publique n'est peut-être pas nécessairement tout à fait d'accord avec ce que je vais dire, que le meilleur ami ou la meilleure amie ne puisse pas de temps en temps venir avec le jeune? Et là, c'est quelque chose, on va maintenir malgré tout quelque chose. Là où le parent va devoir faire attention aussi, c'est de maintenir des relations, de communiquer. Si le parent est en difficulté, ben est-ce qu'il y a un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, par visioconférence, qui va pouvoir rester en contact avec le jeune si le jeune a de la difficulté à communiquer justement avec son parent. Mais parler, accepter que le jeune aura peut-être un peu plus de sautes d'humeur, ça va faire partie de la normalité. Par contre, là où il va falloir faire attention, en tant que parent, c'est pas parce que notre jeune va à l'école une journée sur deux, dans les écoles qui sont tombées en mode hybride, que ça autorise le jeune d'aller travailler. Et c'est là qu'il pourrait y avoir un problème, c'est que le jeune dit, ben, puisqu'on me propose une place à tel magasin ou à tel restaurant, je vais aller travailler plutôt que d'étudier. Ça, ce serait un piège. Un autre piège, c'est tout ce qui va être dépendance, la cyberdépendance en termes de jeu, en termes de sexualité, en termes de la dépendance tout court aux potes, parce qu'on s'entend que plusieurs adolescents vont en consommer. Et s'il n'y a pas de surveillance parentale, ben, c'est certain qu'ils en consommeront peut-être un peu plus. Donc c'est l'encadrement parental va être fondamental pour éviter justement les effets collatéraux des mesures sanitaires ne soient trop dramatiques pour nos jeunes.
L'auditeur qui pose une question fort intéressante sur notre messagerie texte, il dit « Pourquoi on n'en profite pas pour montrer à nos jeunes à être résilients et à vivre avec des situations difficiles? » Et ça m'amène à me poser la question, est-ce que ça s'enseigne la résilience ou c'est quelque chose qui s'acquiert avec la somme des expériences?
Mais en fait, il y a les deux. Il y a d'une part, il y a la nature, il y a des plus résilientes que d'autres. Donc la personne qui a plus de résilience va s'en sortir beaucoup plus facilement quand elle rencontre de l'adversité. Et alors qu'elle ne développera peut-être jamais son potentiel s'il est toujours dans un environnement trop, avec trop de coussins, trop d'enveloppes. D'accord? Mais, comme je disais tantôt, ça s'apprend aussi la résilience. Et la résilience, elle se base sur l'échange et sur créer du sens. Si on n'arrive pas à donner du sens à des situations dans lesquelles on est, c'est difficile d'être résilient. Si on n'arrive pas à avoir de l'espoir, c'est difficile d'être résilient. Donc le parent va avoir un rôle fondamental pour aider son jeune à la fois à créer de l'espoir par rapport à ce qui peut s'en venir d'ici un an, deux ans, cinq ans. Donc de l'aider à se développer, à déployer ses ailes et essayer de créer du sens par rapport à la situation actuelle. Et en même temps, accepter que le jeune soit frustré ou tu sais, il y a combien d'articles qu'ils ont ciblés comme quoi ils avaient des comportements inacceptables autour des écoles, alors que c'est la normalité qu'ils se voient, qu'ils sentent, qu'ils s'embrassent, qu'ils se donnent un câlin, un hug ou des choses pareilles. Et pourtant, j'ai entendu personne qui déchirait sa chemise parce que il y a un groupe de gens qui sont allés jouer au bingo en Gaspésie et ça a créé une zone rouge dans un environnement qui normalement ne devrait pas en avoir.
Ouais. Mais c'est intéressant la question sur la résilience parce que, puis je me mets dans les souliers de parents d'adolescents, M. Monzé, là, juste de fonctionner pour certains, ça va être un défi. Mm-hmm. Vous parliez tantôt de consommation de cannabis, puis c'est un bel objectif de le voir développer de la résilience, puis de l'espoir et tout ça. Je pense que juste de fonctionner, puis de continuer à étudier, ça va être un défi, ça, dans les prochaines semaines, là.
Tout à fait, parce que il y a un moment donné où le degré de stress va être trop important, parce que vous savez, mais c'est la même chose pour tout le monde. On a toujours une base de stress et d'anxiété, et puis ça nous permet de nous adapter à l'environnement dans lequel on est. Donc on s'adapte, et à un moment donné on tombe en suradaptation, et c'est là que nos mécanismes de défense, des comportements de type TDA, TDAH vont apparaître, même si ça n'en est pas, d'accord. Il va y avoir peut-être plus de portes qui claquent, il va y avoir peut-être plus de prise de bec, d'accord, puis à un moment donné où la boucle de stress s'effondre complètement, puis alors là, à ce moment-là, la personne devient apathique et n'arrive plus à remonter, à se reprendre en main. Et c'est pour ça que c'est important qu'on parle, puis même entre nous, entre les adultes, c'est important qu'on se parle. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais souvent, il y a de la décharge. Donc, comment est-ce qu'on peut faire autrement pour pouvoir communiquer, être en lien, recréer justement ce dont on a besoin, un tissu social, même si physiquement on ne se voit pas, mais c'était très important de maintenir nos communautés vivantes, nos communautés actives. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des prouesses ces derniers mois pour offrir des spectacles à travers le web. Je pense qu'il y a des belles plateformes qui existent pour maintenir les choses. Et pour le reste, parlons avec notre cœur, essayons, oui, exprimons notre colère, mais surtout essayons de créer justement pour nous aussi du sens et de l'espoir.
C'est fort intéressant, M. Monzé. Merci de nous avoir parlé. Merci.
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 Merci, Joël Monzé, donc docteur en neurosciences. Très, très, très intéressant. J'aime bien la notion de dire, est-ce qu'on peut pas trouver des aménagements? Par exemple, un meilleur ami, là. Tu sais, exemple, moi, là, mon gars, tu sais, tu demandais tantôt comment ils ont pris l'annulation, là, ben, tu vois, la suspension des sports.
Ouais.
Ben, je pense que vu qu'il avait été préparé, il a fait comme il a fait la moue un peu, mais deux minutes après, il était passé à d'autres choses. Sauf que, quand il me demande, je peux-tu aller jouer chez Antoine? Antoine, c'est son meilleur ami. Il reste à la même rue. Il est dans sa classe. Tu sais, il le voit dans la journée.
Techniquement, il peut pas.
Non, tu peux pas.
Ouais, c'est ça.
Il comprend pas. Tu sais, est-ce qu'il y aurait moyen d'apporter certains aménagements où on aurait peur qu'il y ait de l'exagération? Je sais pas.
Ben, écoute, je vois les commentaires au 25226. Il y a quelqu'un qui nous écrit, c'est ça. Être parent, c'est s'occuper de ses enfants. Oui, mais en même temps, je vais vous dire une chose. Élever des adolescents, là, c'est un défi quotidien.
Ah, c'est clair.
C'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être des ados plus faciles que d'autres. Mais de façon générale, passer à travers l'adolescence, même quand il n'y a pas de COVID ou quand il n'y a pas de crise, c'est un défi pour bien du monde. Pas besoin de faire un dessin là-dessus, vous dressez le portrait de ce que c'est l'adolescence. Là, ajoutez à ça ce qu'on vit actuellement collectivement. Les ados sont très touchés par ça. Ils goûtent pas à peu près, là, présentement, les plus jeunes. Ça vient compliquer. On a beau dire, c'est ça être parent. Ouais, OK, je comprends, là, mais ça vient compliquer beaucoup. Mais moi, je pense, Jonathan, qu'on a une responsabilité. Je parle en tant que parent, pas en tant que spécialiste, évidemment. Moi, je pense qu'on a une responsabilité en tant que parent de pas trop dramatiser la situation auprès de nos enfants. Pas commencer toujours à y présenter le scénario le plus dramatique. Ouais. Moi, j'essaie de créer une atmosphère chez nous où je dis à mon enfant, ouais, OK, bon, parfait, là, ton hockey est arrêté pendant 20 jours, mais on va faire telle autre affaire à la place, puis regarde, ça va passer vite, tu vas voir. On a la responsabilité de pas trop dramatiser, puis de pas trop leur présenter ça comme un drame épouvantable. Des fois, comme parent, on peut être tenté de, parce qu'on est nous-mêmes stressés, de présenter ça comme une situation très pénible et très difficile. Alors qu'il y a moyen, je pense, comme parent, de pas de banaliser, mais de leur assurer une espèce de bulle.
T'as raison, puis même, je vais même jouer sur les mots, là, parce que tu dis de pas trop dramatiser. Oui. Sauf que eux, ce à quoi ils sont exposés, c'est une espèce de dramatisation. Donc, je dirais même, au lieu de pas trop dramatiser, je dirais même dédramatiser.
Ouais. Ouais.
Parce que ils sont exposés à ça. Tu sais, puis en plus, si, exemple, moi, ma blonde travaille dans le milieu de la santé, ils voient très bien là, que ma mère commence à avoir plein de réunions, puis qu'elle rentre dans la maison, puis ça va être direct dans la douche au cas où elle est pas. Tu sais, fait qu'on s'emploie même à le dédramatiser, puis à dire, hey, tu sais, plus tard, vous allez pouvoir dire que vous avez vécu
ça.
Puis je pense que les parents ont un rôle essentiel à jouer aussi dans la capacité de nos enfants à passer au travail.
On va parler de ça tout le temps, journée longue à maison.
Non, en même temps, quand t'es ado, tout est déjà dramatique à la journée longue.
Ah, c'est clair.
Et oui.
Fait que, ça bonne chance à tout le monde.
C'est clair. Ouais. OK, 10h38, presque 39. Au retour de la pause, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, je réponds à nos questions.